proposé de le faire avec elle, mais si jamais j'avais pas eu cette amie, j'aurais eu beaucoup de mal. Et il y a tout un tas de personnes, bah, quand on n'a pas de réseau de connaissances, qu'on n'a pas l'entreprise de la famille, ou enfin pas l'entreprise de la famille, l'entreprise où travaille la famille, on peut avoir du mal, et donc se retrouver poussé vers ça.
Oui, donc c'est ce qui est prévu, c'est-à-dire que comme il est très difficile de trouver des stages, si on n'a pas les relations nécessaires,
pas grand monde qui a des bonnes relations.
Voilà, et on va dire à ces jeunes, à ce moment-là, vous faites le SNU et ça vaut pour le stage. Et ça, ça ne plaît pas du tout non plus aux professeurs. Non seulement on leur va leur mettre sur le temps de travail de l'école, enfin du lycée, mais en même temps, le stage, on va le détourner parce que ce ne sera pas... ils iront souvent vers le SNU. Bon, on ne parle pas de tout ce qui prévoit aussi le gouvernement pour essayer de favoriser les profs en leur donnant quelques primes, etc. Bon, tout ça. Comme on arrive à la fin de l'émission, je rappelle quand même que nous avons toujours une page Facebook de l'Union pacifiste sur laquelle on essaie de tenir une revue de presse. Il y a quelques vidéos qui sont sur YouTube. On était à l'acte 16, on est en train de préparer l'acte 17, donc ça n'est pas toujours pas fini. Je crois, Faustine, qu'il me reste à vous remercier. Vous allez raconter à vos collègues et camarades tout ce qui se passe. Vous allez pouvoir revoir l'émission parce qu'elle reste sur le site de Radio Libertaire. Et puis nous aussi, on le met sur le site de l'Union Pacifiste. Donc ça reste, vous pouvez leur demander. Et maintenant, je crois qu'on va quand même terminer par une chanson. Une chanson de Buller sur Gaza. On a parlé, on a évoqué la Palestine.
Et tous alors, les jeunes qui sont engagés dans ce sens, effectivement.
Il y en a beaucoup, oui, sur et la Palestine, heureusement. Et justement, Michel Buller, qui est un musicien suisse, avait écrit en 2014 déjà une chanson pour défendre les Palestiniens. Alors on va écouter ça, Frédéric, merci.
Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte ? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée. Enfants ciblés, mères en pleurs. De mots viennent à mes pensées. La lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie. Écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur. Et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldats planqués dans ton blindé, puissants comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesses. Et toi, pilote routinier, avec tes missiles de l'horreur, vous personnifiez à jamais la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonne, qui pense, et n'as avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande, larbin sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. voleur de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femme ordinaire, simple passant, où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qui reste spectateur. Voici que retombe sur nous ta lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur?
Sont allées nos années. Où mon cœur, ainsi c'était donc nous, pas la chambre, pas la chambre qui faisions ces moments-là si doux et si tendres.
Dikumi, il court par les pingouins en plus trunan aveas. Verunt est il mi puisse botuliotem simile erat, et ni il mi poderat.
Oi, gilast li ней грусти крайц, ой, кудилай, гройдин.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir qui commence. Donc on est avec Michel, José au micro, Jean-Mathias et ailleurs. Voilà, et donc pour cette dernière émission de l'année, on vous propose à nouveau une littéraire, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup cette année, puis on aime bien ce format, on vous présente plein de bouquins, pas mal de SF, mais de fantastique, mais pas que. Là on vient d'écouter un morceau du super groupe Look the Book, des années 90, je crois que ça date de 90 d'ailleurs ce morceau, qui s'appelait « Les pingouins, reines des baleines ». C'est quand même un beau titre. Parce que je vais commencer par vous parler d'un bouquin, d'un roman de J.D. Curtness. J.D. Curtness, mais je crois qu'on prononce à la française J.D. Curtness. Je vous avais déjà parlé de cette autrice, puisqu'elle avait écrit une des nouvelles dans le recueil de nouvelles Wapke. C'était des nouvelles d'autochtones du Québec. Et une nouvelle que j'avais bien aimée, qui s'appelait « Les saucisses » ou un nom comme ça. Et J.D. Curtness, c'est une autrice issue de la nation des Inuits de Machtehuach, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, qui a été un peu connue, qui a fait parler d'elle avec son premier roman qui s'appelait « De vengeance », que je n'ai pas encore lu, mais je vais m'y coller, donc il sera peut-être chroniqué un de ces quatre, qui a eu plein de prix, dont le prix des voix autochtones. Et elle a écrit un autre roman qui s'appelle « Aquarium » au pluriel, celui dont je vais vous parler, publié en 2019, et en France, « Aux moutons électriques », en 2020. Et donc ce bouquin, « Aquarium » de J.D. Curtness, c'est un roman assez court qui se passe sur plusieurs époques avec des personnages de différentes générations. Ça se passe dans le nord, dans l'Amérique du Nord, quoi, Nord-Canada actuel, à différentes époques. Donc comme j'ai dit, c'était il y a plusieurs siècles, et puis de nos jours, et puis dans un futur proche. Alors le pitch général, c'est un peu post-apo ou pré-post-apo, j'ai envie de dire. Il y aurait une pandémie. Voilà. Et une chercheuse biologiste se retrouve sur un navire qui va dans l'Arctique pour trouver des souches de je ne sais plus quoi, je ne sais plus quel est le prétexte, peu importe. Et se retrouve un peu confrontée à son passé et aux racines, à ses racines inues, qui aussi ont des échos dans le passé avec des personnages d'anciennes époques plus traditionnelles. On se retrouve avec donc une expédition, des choses scientifiques, des souvenirs, pas mal d'humour. On a des cachalots, on a des calmars géants, on a des sorcières, on a un enfant de la lune. Je peux pas trop raconter l'histoire parce que c'est plein de surprises. C'est en tout cas un roman un peu patchwork, mais qui se tient avec une cohérence totale. Et ça m'a donné envie de lire encore plus de bouquins de ces autochtones du Québec, parce que chaque fois je suis un peu épaté. Donc de la bonne. Pourtant, je ne suis pas très post-apo maintenant, ça me saoule un peu, mais là, c'est de la post-apo, pré-apo, qui échappe à tous les clichés du genre. Donc, c'est J.D. Curtness, avec le bouquin « Aquarium » au pluriel, que je vous conseille chaudement.
Is on the agenda, delay the eruption of a money lender. Sharks and vultures, Buddhas, parasites and scavengers, but unwed horses pulling their golden carriages.
sick, sick and tired. You got to set it on fire. If you want it to stop, you gotta rise up and smash through the rock. You know the people at the top, you know they know. They know that they're standing at the top of a volcano. But they plug up the volcano with a pound land. Catch them ashes for some cash in hand. Sow the seed of apathy and addiction. Then rape the harvest of criminal conviction. Cause systemic corruption is on the agenda. Delighting eruption with a money lender. Sharks and vultures, ghouls, parasites and scavengers. But aren't we the horses pulling their golden carriages?
Bonsoir, vous venez d'entendre Screaming Toenail, l'ongle de pied qui crie. C'est pour le morceau qui était Volcano. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit, donc pour une littéraire, en l'absence de Jean-Mathias, avec Michel au micro, José derrière moi qui fait des blagues. Et je voulais encore une fois, j'aime bien prendre des livres pour en dire du mal, parce que nous sommes très très méchants ici à Jeudi Noir. Et sur Radio Libertaire 84, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, il fallait le rappeler. Et donc là, je voulais vous parler rapidement d'un petit livre de Fabrice Chauliac qui s'intitule Absyrial. Et donc un livre français et qui me semblait représenter, comment dire, certaines des limites d'une approche littéraire française qui va surtout se centrer sur le style. Et c'est un livre qui est très bien écrit. Il y a vraiment du style. Et évidemment, en bon français, d'une certaine manière, cet auteur se projette dans le XVIIIe siècle, avant la Révolution française, et imagine qu'un volcan est entré en éruption et a mis la terre de cette époque en contact avec une société plus ou moins démoniaque, avec des êtres humains qui, en quelque sorte, justement, ont passé des accords avec des démons. Et donc, je m'étais dit, oh, bon style, histoire qui commence bien. Et en fait, ensuite, on retombe très très vite dans tout un tas de clichés où un personnage a priori inconnu mais très très doué va se révéler évidemment être l'héritier d'une ancienne famille disparue qui a été spoliée de tous ses biens et qui avait un accord très très important avec une démone très très importante et qui en fait est très très doué. Donc il sait tout bien faire. C'est un peu des clichés qui s'empilent les uns sur les autres. Et donc, en gros, deux tiers du roman, vous dites, j'ai déjà lu cette histoire mille fois. Alors certes, elle est bien écrite, certes, la base est originale, mais ça fait pchit. Voilà, donc c'était pour vous parler de ce pchit que j'avais envie de vous en dire deux mots. Et aussi pour, évidemment, condamner fermement toute forme de formalisme en littérature, parce que c'est mal. Voilà, et donc on va poursuivre avec un peu de musique encore avant d'avoir un nouveau livre chroniqué.
You cannot kill me, you cannot drum. I am the end, beginning and done. Reborn, saying that's the witch is wrong. Purest the darkest the none. The rise of the ancient the done. I am who I am. Return of the ancient reborn. I cannot feel no weapon against me prevail. The value the shadow reveal. Fear is a sickness itself. Speak for myself. The love of the freedom and health.
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours Jeudi Noir avec la musicale qui... La musicale, n'importe quoi, la littéraire qui continue. Mais il y a de la musique aussi. Donc c'était Sampa the Great avec Dare to Fly, Ose Voler, hein, une artiste zambienne qui est située, basée en Australie, morceau de 2019, pour vous parler de Dare to Fly sur les ailes du chant. Sur les ailes du chant, c'est pas Marcel, hein, mais Sur les ailes du chant, c'est un roman de Thomas M. Ditch. J'avais jamais lu de bouquin de Thomas M. Ditch, ça fait longtemps que ça me faisait de l'œil. C'est un bouquin qui date de 79, traduit l'année d'après en français, hein, chez la prestigieuse collection Présence du Futur. Pas prestigieuse à l'époque, mais de nos jours, toi-même tu sais. Et donc Thomas M. Ditch, c'est un auteur états-unien, né en 40, et donc qui est un des représentants de la nouvelle vague de science-fiction avec son ami ennemi Philippe K. Dick, avec Samuel Delany, dont on a beaucoup parlé ici, Sladek, hein, celui qui a écrit TikTok, Ursula Le Guin, dont on a beaucoup parlé ici, Johanna Russe, Sturgeon, dont on a parlé ici, Spinrad, voilà, etc., etc. Petite anecdote, hein, quand même, parce que Philippe K. Dick, dans un de ses accès de paranoïa, l'avait dénoncé en disant que dans un de ses romans, il y avait des messages écrits à l'envers, des messages secrets, nanana. Et ensuite, ils se sont détestés. Et Ditch a écrit des textes assez rigolos où il se fout de la gueule de Philippe K. Dick. C'est un peu marrant. Bref, parenthèse fermée. Ce bouquin sur les ailes du chant, ça se passe dans des États-Unis, dans un futur proche. Et là, il y a des États conservateurs, totalitaires, très très puritains, c'est assez proche de ce qu'on voit maintenant, avec un totalitarisme un petit peu plus poussé. Hein, voilà. Et donc, ces États réprouvent tout ce qui est un peu libéral, hein, des pratiques artistiques un peu trop olé olé, etc. Mais il se passe une chose, c'est qu'on a inventé une machine, et cette machine, si on s'installe dessus et qu'on chante comme il faut, eh bien, on peut s'envoler. Alors, s'envoler, c'est pas avec des petites ailes, tout ça, on se décorporate, je sais pas comment on dit en français, quand on sort de son corps, et là, on peut se retrouver invisible, voir tout ce qui se passe, aller à des vitesses infinies, et ensuite retrouver son corps. Mais pas forcément. Des fois, on n'arrive pas à retrouver son corps et on vit dans un éther éternellement. Voilà. Donc, ça crée des problèmes parce que les gens se sentent espionnés par tous ces gens qui ont réussi le vol et qui sont invisibles, etc. Donc, il y a des pièges, tout ça. Et on dit couramment qu'on se transforme en fée, en fairy, en langue originale. Je dis ça, ça a son importance parce que Thomas M. Ditch était un auteur gay, voilà, et tout à fait qui avait mis quelques petits clins d'œil là-dessus, hein, évidemment, des gens qui se transforment dans le milieu artistique en fairy, etc. Donc c'est une satire à la fois des milieux artistiques, des milieux conservateurs états-uniens. Il y a des choses assez incroyables, quoi, comme dans les milieux artistiques où se teindre la peau en noir devient le dernier chic. Voilà, donc on se fait des tatouages, etc. Sinon, on est complètement ringard. Ils se moquent des bigots, ils se moquent des snobs dans le milieu. C'est très drôle, plein de rebondissements, des trucs un peu datés aussi, un peu ringardos, comme l'expression ringardos. Et voilà. Une petite citation de ce bouquin que j'ai bien aimé pour vous donner le ton. Être un gentleman, c'est obtenir ce que l'on désire avec la simple menace implicite de la violence. Voilà, c'est un peu le ton. Donc c'était Thomas M. Ditch sur les ailes du chant. Et j'ai pas préparé le morceau d'après.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans mettre ni Dieu ni publicité. Et vous venez d'entendre Mark Itzad, Japanese Pie, donc un petit morceau rennais de 1979. Et moi, je voulais vous parler d'un petit auteur inconnu, James Ellroy. Donc, il est très très connu, hein, c'est bon, il a 75 piges. C'est un auteur américain qui a beaucoup écrit sur l'histoire de l'Amérique et sur sur la police, le meurtre, tout un tas de choses. Et je pense qu'on n'en a jamais parlé. José l'archiviste pourrait en parler, alors que pendant des années j'ai presque lu tout ce qu'il faisait. Alors, ce qui est intéressant chez Ellroy, outre que l'auteur lui est pas forcément un type très sympathique, mais ça on a l'habitude, mais c'est que c'est quelqu'un qui s'est en quelque sorte un petit peu plongé dans l'histoire de l'Amérique, qui va toujours décrire à travers des personnages, 2-3 personnages, dans des romans qui en quelque sorte embrassent des périodes un peu charnière dans l'histoire des États-Unis au XXe siècle. Et là, moi, je voulais vous dire 2-3 mots sur un roman relativement récent. Alors, José va définir relativement récent plus tard. Je pense que pour lui, ce sera équivalent à peu près 3-4 ans. Le roman, lui, date de 2015.
C'est vieux.
Donc, c'est vieux, dit José. 2015, je suis désolé, c'est relativement récent. J'ai écouté déjà No Means No. Et, depuis 1992 et environ, et donc 2015, c'est récent, et voilà, si vous m'avez suivi. Donc il a écrit un livre, James Ellroy, qui s'intitule Perfidia, et qui se passe à Los Angeles, juste au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Il va avoir 3 personnages principaux: un Japonais qui est dans la police, qui se retrouve confronté au racisme délirant lié à la propagande de guerre américaine qui se déclenche, une femme qui est un peu prise au piège par le troisième personnage, qui est lui un personnage historique. Et Ellroy fait souvent ça, mélanger des personnages historiques et des personnages fictifs. Un personnage historique qui deviendra plus tard une espèce de chef un peu mythique du LAPD, de la section policière de la police de Los Angeles. Et légendaire, y compris pour son racisme et tout un tas de choses. Et donc, alors que la personnage principale là, dont je vous parlais, elle est plutôt gauchiste. Et donc, c'est comme toujours avec Ellroy, il y a un millier d'intrigues qui s'entremêlent, avec aussi beaucoup de personnages un peu récurrents dans tous ses autres romans. C'est-à-dire qu'il a vraiment créé un monde, une espèce d'un truc un peu balzacien, où des personnages apparaissent dans un roman, son personnage principal dans un autre, et complètement secondaire dans un troisième. Et c'est un univers qui a ses limites, mais le côté historique est toujours assez bien vu, je trouve, et il a tendance à explorer, à gratter certains trucs aux États-Unis qu'on a peut-être un peu oublié ou que nous on connaît pas en France. Donc voilà, c'est pas forcément faut aimer le style, mais Perfidia, James Ellroy, vous pouvez peut-être aller le lire.
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours Jeudi Noir, l'émission littéraire. Là, on vient de passer les Wipers, ce groupe états-unien de la fin des années 70, début 80, avec un morceau qui s'appelait Telepathic Love. Telepathic Love, l'amour télépathique, pourquoi ? Ou télépathe, je ne sais pas comment on dit exactement, mais on va le dire comme ça. Parce que je vais vous parler d'un bouquin de Sue J. Sokol, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, qui s'appelle Z-E-E. Alors, c'est sorti en 2020, ce bouquin. Zee, c'est une gamine. Alors, je parlais un peu de l'autrice. D'ailleurs, je dis auteur ou autrice, je me demande si ce n'est pas une personne non-binaire, d'ailleurs. Une personne militante pour les droits sociaux new-yorkaise qui vit à Montréal. Voilà. D'ailleurs, est-ce que le bouquin n'a pas été directement écrit en français ? Je ne sais plus. Bref, passons. Zee, c'est une enfant. Hypersensible, hyper empathique. C'est-à-dire qu'elle est empathique au point qu'elle lit un peu les pensées des autres et que les pensées des autres même l'envahissent. Et donc elle se retrouve à devoir s'adapter aux attentes des autres. Elle ne comprend pas trop ce qui est elle, ce qui est des autres, comment se situer par rapport à la volonté déjà de ses parents, parce qu'elle n'a pas de parents. Hein, comme aimerait Civitas, ou je ne sais plus comment s'appelle le dernier courant à la mode. Donc, elle a quatre parents, déjà. Donc, deux parents biologiques, et plus leur compagne et compagnon, etc. Donc, c'est plutôt un milieu très, très, très ouvert, hein, on va dire, culturellement, socialement. Et donc, ce qui permet à cette gamine de pouvoir s'épanouir dans ses grosses difficultés à se définir. Hein. Quand on lui dit be yourself, hein, sois toi-même, toi-même laquelle ? C'est-à-dire que parfois, elle se retrouve à être, je ne sais pas moi, un joueur de baseball parce que là, il y a quelqu'un qui lui a quand même envoyé des pensées un petit peu fortes et qu'elle s'y identifie, comme elle va se retrouver très proche d'un de ses parents, etc. etc. Bref, c'est un roman plutôt young adulte, un jeune adulte, ou un peu d'initiation, mais initiation plutôt psycho, intimiste, avec des choses assez, assez étonnantes. C'est un roman comme je n'aurais pas cru pouvoir en lire ou devoir en lire, avec beaucoup de fantastique. Voilà, en tout cas, si vous avez un ou une enfant qui a du mal à se trouver, à grandir, etc., ça peut être une petite lecture à conseiller. Jetez-y un œil quand même avant, parce que ça peut être aussi un petit peu fort. Bon, moi, j'ai toujours pas préparé le morceau d'après. Je suis nul aujourd'hui. C'est pas grave, on va le mettre. Alors, attention, on va envoyer un morceau qui s'appelle Ambassadrice.
L'ambassadrice, laisse ton plan, la système prend le son, n'est pas triste. Toutes ces pauvres starlettes sont que des actrices. T'as une dédicace à faire, tu la passes en mixtape. Discrétion, tous mes partisans. C'est soi-disant, puis jamais par disons. C'est pas comme si je rappe depuis 10 ans. J'augmente mes stats, et ce à chaque saison. Dis-leur que Afro est dans le secteur. Ils font jamais, ils ont tort, ils ont peur. Ça perd en dit long. Dès lors que j'accroche mes agresseurs, sur leur fond que de la sueur. Ce jeu devient ennuyeux. Mais dis-moi qu'est-ce aurais-tu. Il y a ceux qui mènent et qui amènent. Oh, et ceux qui la ramènent. Pour me juger, eh bien, quelle source as-tu. Tu penses que tu pèses, en fait tu perds. Je fais la bise à son père. Disons que parce que t'as le choix des mots et que t'as le choix du style, ça fait toi un mec habile qui sait. Dilemme, ma victoire est dans les rimes. Joie et peine pour la musique, tu ne vis que pour les chiffres. Ton savoir est bien, quand feras-tu. T'en as trop et tu l'étales, pas quoi ramener tout l'état. Et de ce trou, quand en sortiras-tu. Toutes tes paroles foutaient. J'prends mes ailes, secteur, j'suis l'ambassadrice. Laisse ton poids, la système prend le son, n'est pas triste. Toutes ces pauvres starlettes sont que des actrices. T'as une dédicace à faire, tu la passes en mixtape. Discrétion, tous mes partisans. C'est soi-disant, puis jamais par disons. C'est pas comme si je rappe depuis 10 ans. J'augmente mes stats, et ce à chaque saison. La vie dure, je suis plus, c'est l'état de mon mental, tu sais. Graver les monts et les échelons, tel est mon taf, tu sais. Graver le flow, graver le son, se mêler au taf, tu sais. Fournir un taux de niveau plus qu'élémentaire, tu sais. Évidemment, je n'évite pas le fond, toutes ces petites bafoues, donc j'esquive à fond. À qui la faute. Si ces rats sont tous des jaloux qui te mettent dans le doute, 2 secondes, j'ajoute. Ici, j'ai pas le temps, ne t'accroche pas à moi, je ne changerai pas de ton. T'as beau venir de loin, ça n'arrangera pas le temps. Je me tiens au plan, un univers toujours. J'aurais pas tant. Afro ont le cœur d'une battante. J'ai fait des sports sans complexe, toujours présente dans la compète. Un manque, je le complexe. Sans vie, sans doute, mais dans la vie, moi je kiffe et je dompte. Je win it to lose. Secteur, je suis l'ambassadrice. Laisse ton plan en l'air si t'aimes, prends le soin, n'est pas triste. Toutes ces pauvres starlets sont que des actrices. T'as une dédicace à faire, tu la passes en mixtape. Discret sont tous mes partisans. C'est soi-disant qui gère mes pardisons. C'est pas comme si je rappe depuis 10 ans. J'augmente mes stats à chaque saison. Tu ne le sais pas encore, mais je rentre dans ton cerveau. À qui as-tu affaire? Crois-tu que tu vas plaire? Dis-moi à quoi ça sert de t'avoir dans mon réseau. Gauche, droite, gauche, trop de faux dans mes rétros. J'ai vu que les coups bas, ne me demande pas pourquoi. Mon arrêt sans limite, 2 fois 8, c'est le trou noir. Tels sont je pourvois. Ne me demande pas pourquoi. Pour tester mon équipe, rendez-vous après le tournoi. 3, 5, mon lieu de résidence. Entre dans mon monde où la jeunesse de France rit et danse. Fille et pense, sans se fier aux circonstances. Car nos élites sont condamnées, peu d'élus concernés. Bercés par leurs airs, on ne demande que ça. Soul, funk, jack, pour me sentir à l'aise. Tu veux y mettre un terme, espérant nous voir perdre. Là où je suis la reine, aucune d'elles ne peut régner. Du secteur, je suis l'ambassadrice. Laisse ton plan en l'air si t'aimes, prends le soin, n'est pas triste. Toutes ces pauvres starlets sont que des actrices. T'as une dédicace à faire, tu la passes en mixtape. Discret sont tous mes partisans. C'est soi-disant qui gère mes pardisons. C'est pas comme si je rappe depuis 10 ans. J'augmente mes stats à chaque saison.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit donc avec José et Michel au micro. Vous venez d'entendre Afro pour un morceau qui s'intitule Ambassadrice. Ça vient encore de Rennes et c'est relativement récent puisque c'est que de 2013. Même si là encore José pourrait avoir des choses à dire. Et moi je voulais vous parler d'un livre d'une autrice américaine new-yorkaise, Arkadie Martin. Qui donc Martin c'est le nom. C'est le nom dans son nom d'écrivain, parce que en fait elle a un autre nom.
Et quand elle va à la plage
Alors José a fait une blague ignoble, on va le virer immédiatement, mais peu importe. Je voulais vous parler d'un livre qui s'intitule Teixkalan. Alors c'est le premier volume d'une série qui s'intitule Teixkalan et c'est un souvenir nommé Empire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans sa vie de non-autrice, Arkadie Martin est professeure d'histoire et elle s'est spécialisée sur l'Empire byzantin. Et dans son roman de science-fiction, il y a je pense que c'est pour elle l'occasion aussi de développer une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un empire et du point de vue en particulier de l'ambassadrice, puisque le titre choisi par José était lié à ça. C'est une jeune ambassadrice qui a été choisie pour remplacer l'ancien ambassadeur qui est mort dans des circonstances louches. Et elle vient d'une espèce de station spatiale qui forme une république et qui craint d'être annexée par l'Empire, qui n'en ferait qu'une bouchée. Et en fait, le seul truc, c'est que l'Empire, c'est comme une espèce de gros animal qui prend des trucs juste parce qu'ils sont là. Et donc l'ambassadrice, elle a entre autres pour rôle déjà de comprendre ce qui est arrivé à son prédécesseur et ensuite d'essayer d'influencer la politique de l'Empire pour éviter que l'Empire, justement, ne prenne possession de l'annexe de cette petite république. Sachant qu'il y a des différences culturelles, des différences langagières, que l'Empire s'est beaucoup développé, c'est un empire gigantesque, qui a développé des formes de politique assez subtiles dans lesquelles vous avez énormément de complots et dans lesquelles, le langage prend une place importante. Alors c'est de l'ASF un petit peu d'intello parce qu'il y a une grosse réflexion tout au long sur, en quelque sorte, qu'est-ce que je suis vraiment en train de dire quand je dis quelque chose dans une langue étrangère. Et donc cette ambassadrice, cette jeune ambassadrice va se retrouver en difficulté du fait en particulier de malentendus culturels profonds, puisque elle, dans sa station, là je spoil pas, hein, c'est dit dès le début, comme ils ont assez peu de gens dans la station, ils ont besoin de transmettre l'expérience d'une génération à l'autre d'une manière très efficace. Et donc chaque membre de cette république porte en lui ou en elle une espèce de petite puce qui va faire une forme de fausse conscience qu'on va ensuite pouvoir greffer dans la personne qui lui succède pour transmettre l'expérience. Et donc, chaque personne de la station spatiale républicaine, là, porte avec elle 10 ou 13 générations un peu fusionnées, où la personnalité la plus marquante, c'est celle de la personne directement antérieure. Mais l'ambassadrice est censée avoir cette aide, donc pour pouvoir bien gérer le monde nouveau impérial qu'elle ne connaît pas. Sauf qu'en fait, sa puce a été sabotée. Et donc elle se retrouve vraiment toute seule. Et tout va se jouer sur, en quelque sorte, qui a tué l'ambassadeur, pourquoi et qu'est-ce que veut l'Empire. Donc ça peut être, c'est un peu lent parfois, c'est pas de la SF qui est forcément haletante, quoi qu'il se passe des trucs, puisqu'on essaie souvent de l'assassiner, cette pauvre ambassadrice, mais c'est de la SF de qualité, et puis bon, comme d'autres bons bouquins, ça a reçu un prix Hugo. Donc si vous aimez ce, comment dire, si ça vous tente, vous pouvez aller le lire, je pense, j'espère, et voilà. On va passer encore un petit morceau de musique avant que José nous parle d'un autre livre.
Évidemment, tout le monde aura reconnu Victims Family avec le morceau Product de 1994.
Évidemment,
sur Radio Libertaire 89.4, l'émission Génie Noir qui continue. Bon, on a pris notre temps, on a mis des morceaux longs, donc je vais accélérer un petit peu. Ça tombe bien, c'est un tout petit bouquin de quelques dizaines de pages, une grosse nouvelle que je vais vous présenter, écrite par Anne Warren Griffith. Donc c'est sûrement la seule nouvelle ou une des deux seules nouvelles qu'elle a écrite, puisque sinon elle était plutôt journaliste, elle a écrit beaucoup d'articles dans le New Yorker, etc. Donc c'est une étudiante. Elle a été pilote pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une de ces femmes pilotes volontaires pendant la Deuxième Guerre mondiale pour se battre contre... Comment il s'appelait, Adolphe, je ne sais plus, Hermann, je ne sais plus son nom. Et donc c'est un petit bouquin de 1900, une nouvelle publiée dans un magazine, 1953, et qui a été réédité plusieurs fois, mais dont une belle édition chez Le Passager Clandestin en 2016. Et je vais vous lire un peu le début. Mais oui, monsieur, c'est le moment d'allumer une bonne Chesterfield, le moment de savourer cette première cigarette de la journée, si délicieuse et si douce. Ben en fait, c'est un petit peu le ton. Et ça, c'est pas quelqu'un qui parle, mais un paquet de cigarettes qui parle. Voilà. Tous les objets ont des slogans intégrés qui vous interrompent, hein, qui vous coupent la parole. Et les gens adorent ça. Hein, c'est devenu une forme d'art. C'est très tabou de les critiquer. Donc on se retrouve dans une famille où d'ailleurs il y a un publicitaire et ils sont tous en train de parler des slogans. Oh, celui-là était mieux que celui-là, etc. Et donc c'est une satire hyper bourrine, mais très très drôle et pas si datée que ça de la publicité hyper invasive hein, comme on peut avoir maintenant sur n'importe quel mail, n'importe quel logiciel qu'on télécharge avec des pop-up dans tous les sens. Donc alors ça se lit très très vite, c'est très rigolo et puis surtout dans la version Passager clandestin dans l'édition de 2016, il y a un petit dossier à la fin qui rétablit le contexte et de manière assez intéressante. Voilà. Donc c'était Anne Warren Griffiths avec Audience Captive.
Nos ventres, grand réservoir de poubelles académiques. À vous, mes amis, dont la tendresse m'est une nécessité. Paix et respect de la vie de chacun. À la fascination du feu, paix au lever du jour, à la tombée de la nuit. Paix à celui qui marche sur les routes. Jusqu'aux horizons sans fin. Jusqu'aux horizons sans fin. Paix aux courroux de l'âme qui a faim. Paix à la haine, à la rage.
Vous venez d'entendre un morceau extrêmement récent de 2011, interprété par Meurtre, c'est Paix, c'est une reprise de Catherine Ribeiro, plus Alpes, c'est quoi ça, José?
C'est le groupe.
C'est le groupe, d'accord. Et je vais vous parler encore de Arcadie Martine, parce que après un souvenir nommé Empire, elle a écrit un deuxième livre dans la même série qui s'intitule Une désolation nommée Paix. C'est inspiré d'une citation romaine qui disait « Ils ont tout démoli » et en gros ils appellent ça « Paix ». Donc c'est une citation qui est toujours d'actualité, je pense. Malheureusement, elle n'est jamais pas d'actualité. Et bon, bref. Donc dans ce deuxième volume, elle va plutôt décrire en quelque sorte son personnage principal est retourné sur la station spatiale et l'Empire là se retrouve confronté à une menace qui avait été évoquée dans le premier roman, un souvenir nommé Empire. Et cette menace, c'est une menace externe. Donc classique, en quelque sorte, les barbares qui arrivent. Les barbares au sens où ceux qu'on n'en arrive pas du tout à comprendre, parce que c'est une civilisation qui est totalement différente, et en particulier, ça c'est un classique dans les romans de science-fiction, en fait on comprend très très vite que cette civilisation étrangère fonctionne avec un esprit de ruche, et que donc ils comprennent pas ce que c'est qu'un individu. Et quand par exemple ils tuent un humain, ils savent pas trop, quoi. Pour eux c'est comme s'ils coupaient un ongle. Ils se disent pas qu'ils sont en train de tuer quelqu'un qui représente plusieurs générations. Par exemple, dans le cas des Républicains dont je vous parlais, ou un individu à part entière dans le cas de l'Empire. Et donc cette ancienne ambassadrice va se retrouver à être mandatée à la fois par l'Empire ou par quelqu'un qu'elle connaissait dans l'Empire et par sa station spatiale qui, elle, voudrait que le conflit perdure entre ces extraterrestres, enfin ces aliens, et l'Empire, parce que ça permettrait justement à cette République d'éviter une annexion plus ou moins, plus ou moins pendante, quoi. Donc vous avez, en quelque sorte ici, Martine Arcadie, je pense, enfin Arcadie Martine plutôt, poursuit sa réflexion sur l'Empire à travers ce spectre de la science-fiction et d'une espèce d'empire spatial galactique qui justement doit gérer des choses qui sont, peut-être totalement étrangères. Et comme souvent science-fiction, je pense que ça peut être l'occasion de faire une forme de littérature, qui nous fait réfléchir sur le monde réel, sans forcément s'embourber dans des positions politiques trop tranchées, qui rendraient peut-être la réflexion, moins digeste ou trop passionnée, je sais pas. Voilà, donc c'était le livre d'Arcadie Martine, Une désolation nommée Paix.
Stop. Nobody really wanna ride.
avant ça, on a coupé le morceau de Meurtre qui faisait 9 minutes et là on met Fugazi en entier. Bon, Fugazi, Life and Limb sur Radio Libertaire 89.4, toujours Jeudi Noir pour finir. Alors je vais finir tout seul avec deux bouquins. Donc le premier, je vais essayer d'aller très très vite pour parler du second, plus intéressant, on va dire. Le premier, c'est de Tanit Lee, une autrice britannique, née en 47, voilà, qui a écrit des dizaines et des dizaines de bouquins de SF et de fantasy. Là, c'est un bouquin en deux tomes. Tome 1, Ne mord pas le soleil, et tome 2, Le vin saphir, écrit en 76-77, traduit quelques années après en France, en français, pardon. Alors c'est hyper chelou, c'est dans un monde complètement éloigné, on ne sait pas si c'est la Terre ou une autre planète ou quoi. Y a les gens vivent dans des villes bulles, des bulles comme ça, séparées les unes des autres, mais ils peuvent parler de l'une à l'autre, qui sont gérées par des machines et des robots, des quasi-robots aussi, et des êtres humains, qui fournissent un peu tout ce qu'ils désirent. Il ou elle désire d'ailleurs, puisque ben, les habitantes de ces bulles peuvent changer de corps un peu à loisir. Hein. En gros, c'est faut pas trop abuser, mais tu changes de corps comme tu veux. Non seulement homme, femme, autre, mi-animal, chimère, tu peux te faire pousser des cornes sur la tête, des queues, etc. Il y en a qui kiffent ça, donc on peut se suicider pour changer de corps, mais c'est un peu mal vu. Il y en a qui abusent un petit peu, il y en a qui font juste voilà, pour le fun. La société est organisée en groupe d'amis, en cercle d'amis, des cercles complètement hédonistes, et aussi en classe d'âge. On est soit ado, soit vieux, avec chacun des comportements très stéréotypés. Et on suit une ado, dont on ne connaît pas le nom, qui s'ennuie et qui cherche un sens à sa vie, parce qu'il y a vraiment tellement peu de limites dans ses bulles qu'il faut qu'elle trouve quelque chose, et donc qui va défier un petit peu tout ça. Et donc c'est assez drôle, c'est super original, c'est en deux tomes. Je passe au bouquin suivant, là c'était Tanit Lee, Le bain des limbes. Bon conseil de SF. Là on revient en France pour finir, avec un bouquin qui s'appelle Bâtir aussi, des ateliers de l'antémonde. Alors on pourrait faire une émission complète dessus, mais ça a déjà été fait. Cherchez sur internet, il y a des émissions de radio sur Bâtir aussi, c'est assez chouette. Donc ça se passe dans les années 2020, donc un futur très proche qui est presque un passé pour nous. Il y a les révoltes qui se répandent un peu partout, dont sur le territoire hexagonal. C'est un peu sur le modèle des printemps arabes, hein, l'Araki. Et il y a des communes qui s'organisent, des communes indépendantes. Et c'est un bouquin qui a été écrit de manière collective, où c'est une série de nouvelles, mais qui sont complètement cohérentes, hein, écrites de manière cohérente, et qui se posent plein de questions sur qu'est-ce qu'on construit sur les ruines de l'antémonde, du monde d'avant. Donc c'est vraiment le monde d'après, hein, bâtir aussi. Que conserver et que supprimer? Alors c'est beaucoup de réflexions par rapport à la technologie, puisqu'on voit l'influence complète de Murray Bookchin, hein, dans ce bouquin. C'est explicite, hein, c'est explicitement dit. Ça va de questions comme bah, quel mode de transport est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on utilise l'essence qui existe encore? Est-ce que bah, y en a qui sont plutôt pour le vélo? Comment on fait pour réparer les machines à laver? Est-ce qu'il faut réparer les machines à laver? Et ces petits jeunes-là qui veulent quand même construire un avion, parce que pour eux, c'est super exotique. Ils sont nés après tout ça, ils connaissent pas l'antémonde, donc faire voler un avion, c'est super magique. Mais est-ce qu'il faut les encourager? Est-ce qu'il faut les dissuader? Comment on gère aussi les réacs qui sont encore vivants, etc. Donc, c'est un bouquin écrit un peu sans tabou, avec des questions très concrètes. Et on est un peu loin des clichés. Et c'est un bouquin, voilà, un ouvrage collectif très intelligent, hyper sympathique. On peut le télécharger en EPUB sur le site, je mettrai le lien sur Jeudi Noir Gurdulu. Il y a même une version audio dispo sur le site, donc voilà, téléchargez gratuitement. Donc les ateliers de l'antémonde qui ont écrit Bâtir aussi. Un petit peu proche, il y avait aussi, j'en ai déjà parlé, Les Agglomérés, un autre collectif avait écrit Subtil Béton en 2022. Voilà. Bon, ben, on s'arrête là pour Jeudi Noir, pour cette année 2020, on est en combien? 23. Et puis on se reverra peut-être l'année prochaine avec Jean-Mathias, si tout va bien. Michel, un dernier mot avant qu'on passe No Means No.
Le meilleur groupe du monde et de toute l'histoire pour l'éternité.
Et avec le morceau qui s'appelle The World Wasn't Built in a Day. Le monde ne s'est pas bâti en un seul jour. Rapport au bouquin de juste avant, Bâtir aussi des ateliers de l'antémonde. À bientôt.
driving around aimlessly. A waking dream occurred to me that everyone I knew had died that day, that my friends, co-workers, and loved ones had all just suddenly passed away. Well, there were drunken car crashes and airline disasters and suicides that were unexplained. And as I drove past familiar scenes, streets and buildings that were 100 times seen, as a wave of contentment washed over me, I wondered what this could possibly mean. As the sun spilled its warmth over the houses and the trees, I felt that I was finally free. But you know what they say, in the parking lot of the local Safeway. Well, I had seen her face 100 times, but I never knew her name. And as I drove her home, she laughed and she sighed, and the strain of the moment passed away. Explained how my father had died, how I had seen his body and never cried. She let her hand fall on my leg, and there she let it stray. When I dropped her off, she asked me up. I politely said I couldn't stay. And as she walked to the door, as those bags of groceries gently swayed, I turned the wheel and muttered to myself, "No way, man, no way." But you know what they say, the world wasn't built in a day.